I'm turning today to the letter of Jude and verse 1, Jude, the servant of Jesus Christ.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'épître de Jude et au verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, qui ont été sanctifiés en Dieu le Père et gardés par Jésus-Christ. La miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Et notre sujet ce matin est le suivant. Le combat spirituel d'un chrétien. En deux études séparées, j'aimerais considérer cette épître remarquable et plutôt unique dans le Nouveau Testament. Une épître dont nous avons toujours besoin en tant qu'enfant de Dieu. Jude, le frère de Jacques, non pas un apôtre, mais un demi-frère du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est converti après la résurrection de Christ, nous le savons. Un converti plus tard. Il n'est pas mentionné ici dans ce livre de la chute de Jérusalem. Certains pensent qu'il a été écrit avant 70 après Jésus-Christ. D'autres pensent que ce livre a été écrit après, pas aussi tard que les épîtres de Jean, qui était le dernier apôtre qui survivait encore et a écrit entre 90 et 95 après Jésus-Christ, mais probablement entre 80 et 85 après Jésus-Christ. C'est là que cette épître de Jude a été écrite. Ceci est important pour nous et je pense que c'est probablement à cette période-là parce que Jude parle de la foi qui a été donnée une fois aux saints. Il semble que cette ère des prophètes, des apôtres inspirés se termine et les Écritures étaient en grande partie intactes et complète, presque complète. Et il pouvait parler de la foi, tout ce corps de vérité qui a été donné et scellé et sûr. D'une certaine manière, ceci est peu important que ce soit avant ou après la chute de Jérusalem. Mais cette lettre parle d'erreurs, d'hérésies et les enfants de Dieu qui ne défendent pas la vérité. Ceci parle du combat d'un chrétien, du combat spirituel, de la défense de la foi. Dans la vie chrétienne, il y a un combat personnel, un combat pour la sainteté. Il y a également un autre aspect du combat personnel, contre la tentation, contre les doutes, contre les assauts de Satan. Et il y a ce grand combat pour gagner des âmes également. Et pour gagner ceux qui sont perdus. Toutes ces choses font partie du combat spirituel personnel d'un chrétien. Mais il y a un autre aspect, c'est ce combat pour défendre la vérité. Parce que la vérité sera toujours attaquée. Ainsi, Jude écrit au verset 3, « Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, touchant notre salut commun. » Ceci implique que Jude étaient inspirés de leur écrire par rapport à la doctrine, au salut. Et ensuite, il a été poussé par Dieu encore plus. Il y avait besoin de leur écrire pour les exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. Il a été poussé à faire cela. Et ceci a été donné par l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il exhorte à défendre la foi. D'une certaine manière, les églises ont échoué en cela. L'église à qui cette épître a été écrite au début a échoué en cela. Pour vous exhorter à combattre pour la foi de tout votre cœur, de toute votre force pour la foi. Ceci signifie le corps de vérité, l'ensemble de vérité dans ce contexte qui a été donné une fois pour toutes, donné par Dieu, non pas pour nous, pour que nous puissions en rajouter ou ôter des choses, pour penser que nous pouvons l'améliorer. Il y a un ensemble de doctrines complètes, une révélation de la vérité qui est entièrement suffisante et donnée par Dieu, la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. C'est si précieux et c'est par cette foi que les âmes sont sauvées. Et c'est cette foi et croire en ces choses et notre réponse à ces choses qui déterminent toute l'éternité, le ciel ou l'enfer. Ainsi, cette foi ne doit pas être polluée, souillée, diluée, ruinée, détruite. Vous devez combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. C'est là la situation et c'est là l'arrière-plan. Et l'ennemi de nos âmes essaie toujours de mettre en avant des gens. Dans ce cas-là, ils viennent de l'intérieur de l'Église. Ce sont des gens qui semblent être ou qui disent être croyants en Christ. Mais ils ont renoncé à cette foi. Et nous allons voir comment ils ont renoncé à la foi. Et à présent, ces agents de Satan viennent pour diluer la parole, pour diminuer l'influence de la parole. Et nous devons veiller et être prêts. C'est là toute une dimension des disciples de Christ et de la défense de la foi. Et toujours ceci sera essentiel, de défendre la foi. Ainsi, Jude ensuite parle du contexte au verset 4, « Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. » Je pense que ceci implique quelque chose de positif. Il semble être en grande minorité, ou du moins quand Jude écrit, et à l'endroit auquel Jude écrit. Il s'est glissé parmi vous certains hommes, c'est une petite minorité qui se sont glissés dans l'Église. Des minorités peuvent devenir des majorités, et si la minorité corrompt la foi et que la situation est négligée, alors leur œuvre continue et ils détruisent l'Église et la compréhension des gens et ils deviennent une majorité. Ici, ils ne sont pas encore arrivés à ce point-là. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Ils se sont glissés. Ils se sont glissés en secret. Ceci suggère que dès le début, il y a des gens qui n'ont jamais été convertis du tout. Peut-être qu'ils pensent qu'ils sont convertis. Peut-être qu'ils utilisent les bons termes, les bons mots. Et d'autres chrétiens pensent qu'ils sont convertis. Mais ils n'ont jamais été chrétiens, convertis. Et ils ont toujours eu leur propre but, mauvais but. Et ils n'aimaient pas cette foi en particulier, certains aspects de la foi. Et dès qu'ils avaient l'occasion, ou qu'ils étaient en présence de certaines personnes, ils allaient expliquer leurs doutes, leurs plaintes, leurs oppositions, leur hostilité. Ceci suggère qu'ils ont toujours eu une hostilité contre la foi. Ils ont toujours voulu amener leurs propres idées et changer l'opinion des gens qui sont fermes et fidèles. C'est là ce que ce verset suggère, ce que ces termes suggèrent. Ils se sont glissés parmi vous. Ils n'ont pas changé d'avis. Ils n'ont pas perdu leur foi. Ils ont toujours été dans cette mauvaise disposition d'esprit, incroyant, contre la foi. Et ceci, c'est ce qui est manifesté petit à petit. Ils étaient secrets, ils étaient rusés, ils ont gardé leur opinion pour eux-mêmes. Et ils ne parlaient que quand c'était un bon moment. Et ceci décrit comment l'erreur entre. Il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ainsi, nous concluons ceci, c'est que ils ne sont pas tombés, ils n'ont pas eu un genre d'accident, ils ne sont pas tombés, ils n'ont jamais été sauvés. Simplement, ils disaient les bonnes choses. Ou peut-être ils étaient trompés par eux-mêmes au départ, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Et ensuite, il continue de décrire au verset 4, des impies. Ce terme impie en grec a une signification particulière. Au temps de notre traduction, la signification de impie était un peu différente. Mais c'est un terme qui a changé sa signification. Si nous disons que nous sommes pieux, impie, c'est ne pas être consacré à Dieu. Mais ce terme impie en grec signifie plutôt des gens qui ne respectent pas Dieu. Un terme qui parle de votre attitude par rapport à Dieu. Même pour des païens, quelle est votre attitude par rapport à tous ces dieux que vous avez? Ou en tant que chrétien, est-ce que vous respectez Dieu, que vous le révérez, que vous l'aimez? Ou est-ce que vous êtes léger, superficiel, vous manquez de respect? C'est là le sens de ce terme « impie ». Des hommes impies qui manquent de respect. Des hommes qui ne respectent pas Dieu. Ceci est très important. L'un des grands signes qui montre que quelqu'un est contre la vérité, un hérétique, quelqu'un qui erre du chemin, c'est qu'il ne respecte pas les Écritures, il ne respecte pas le Seigneur, il ne respecte pas la vérité. Il est prêt à être très léger, superficiel par rapport à la vérité. Et ceci est très important, très grave, parce que nous voyons ceci même parmi des évangéliques. Il y avait un homme, et je ne vais pas mentionner de nom, aux États-Unis, qui récemment a attiré beaucoup d'attention sur lui-même. Il semblait être un prédicateur plutôt réformé et calviniste dans sa doctrine. Et à un moment donné, il était le prédicateur le plus écouté sur Internet. Mais si vous écoutiez sa prédication, il ne respectait pas Dieu. La manière par laquelle il expliquait les livres de la parole, il manquait tant de respect. Et il tournait les versets dans toutes sortes de directions. Il parlait d'une manière irrespectueuse, impie, sans respect, à la légère. Il était même connu pour être un prédicateur qui maudissait. Il manquait de respect dans ses termes qu'il utilisait, dans ses mots, de beaucoup de manières. Et beaucoup de gens n'ont pas vu que c'était là un avertissement. De manquer de respect, de crainte de Dieu, de ce sens de sa majesté, sous l'autorité de Dieu, de la parole de Dieu. C'est quelque chose d'important, une indication qui nous montre que cette personne est hérétique. Et parmi les églises qui croient dans la Bible, qui sont fidèles dans la parole, nous voyons beaucoup de gens qui inventent de nouvelles choses. Et si vous leur dites que ceci n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors ils manquent de respect, ils ne vous écoutent pas, ceci n'est pas un problème pour eux. Ils utilisent toutes sortes de tragédies contre la parole de Dieu. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est un terme que nous utilisons peu de nos jours, mais ce terme en grec signifie tout accepter, changeant la grâce de Dieu en une liberté de faire tout ce que vous voulez. Dissolution. Oh, nous sommes pardonnés par Dieu, nos péchés sont pardonnés, purifiés, ainsi nous pouvons continuer à la légère et nous pouvons faire tout ce que nous voulons et Dieu va nous pardonner. Qui change la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renie Dieu le seul dominateur et Jésus-Christ notre Seigneur. Ces paroles sont très très importantes. Si vous ne comprenez pas bien ces paroles, vous pouvez en un instant vider cette épître de Jude de toute sa signification, de toute son importance. C'est important d'expliquer ces termes. Qui renie Dieu le seul dominateur et Jésus-Christ notre Seigneur. Certaines personnes disent, nous voyons de qui il parle. Il parle de ceux qui renient Christ, qui renient les doctrines, qui renient les fondements de la foi. Oh, nous ne sommes pas proches de ces gens-là. Il n'y a pas ces gens-là dans le monde évangélique, non pas dans le monde de ceux qui sont fidèles à la parole de Dieu. Non, personne ne nie la déité de Christ. Personne ne renie Christ. Ainsi, tout ceci ne s'applique pas pour nous. Mais ils sont dans l'erreur. Ils ne comprennent pas du tout ce passage, ce que Jude dit. Et qui renie Dieu le seul dominateur et Jésus-Christ notre Seigneur, cela ne signifie pas qu'ils renient Christ, littéralement, mais par leur conduite, ils ont renié Christ. Une personne qui manque de respect et qui interprète la Bible selon ce qu'il veut dire et la tord ici et là et a des visions et invente des choses qui ne sont pas dans l'Écriture et œuvre d'une manière qui est contre l'Écriture et qui n'est pas scripturaire, ceci c'est renier Dieu, son autorité. Il n'écoute pas ce que Dieu dit, il n'est pas obéissant à ses commandements. Il renie son autorité et sa parole. Il renie ce que Christ est venu faire dans ce monde, son œuvre pour sauver les âmes du péché et pour transformer les cœurs, pour nous sanctifier, parce que cette personne vit d'une manière impie. Ainsi, il renie le but même du salut. C'est là le sens de ce que Jude dit. Vous devez prendre tous ces quatre versets ensemble, c'est une conclusion des choses qu'il dit. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Et ainsi, en cela, c'est là la grammaire en grec, c'est là le sens de ce texte. Et ainsi, en cela, il renie Dieu le seul dominateur et Jésus-Christ notre Seigneur, la souveraineté de Dieu en désobéissant. Et j'aimerais prouver cela. Ces personnes-là sont assises à la Sainte Cène avec tous les autres. Ils n'ont pas été exclus. Mais s'ils avaient nié la déité de Christ ou les doctrines fondamentales de la foi, ils auraient été exclus sans aucun doute. Mais ils sont encore là à la Sainte Cène. Ainsi, vous voyez, littéralement, ils ne renient pas Dieu. Et c'est là le ruse. Ils professent les bonnes doctrines, mais ils renient Dieu, son autorité, parce qu'ils ne lui obéissent pas. Ils n'obéissent pas à toutes ses instructions, à tout ce qu'il requiert de notre part. Ainsi, ceci peut s'appliquer à nous. Ce n'est pas simplement est-ce qu'il renie Christ, mais est-ce que cette personne manque de respect? Est-ce que cette personne obéit? Ou est-ce que c'est une personne qui est dans l'hérésie, dans l'erreur? Vous voyez que vous pouvez rendre toute cette épître complètement vide de sens en ne comprenant pas ce verset. Non, ils reniaient Christ par leur conduite, pas par leurs paroles. Et nous allons revenir à cela plus tard, mais au verset 5. Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois. Oh, ils savaient. Ils connaissaient l'histoire biblique, mais ils semblent avoir oublié l'implication de ces choses. Que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas. Vous voyez qu'il y a toujours des gens qui vont dire « Mais il dit connaître le Seigneur, il ne peut pas être dans l'erreur. » Je me rappelle quand j'étais un jeune chrétien, il y avait quelqu'un qui est venu dans mon église pour prêcher. C'était une église qui était dans l'Union Baptiste à l'époque. C'était une église évangélique. J'étais très jeune. Et cet homme qui est venu prêcher, prêchait clairement des choses qui étaient complètement fausses. Et ces choses étaient contre l'Écriture. Ainsi, il y avait quelques personnes à la fin du culte qui ont dit « Oh, il renie l'Écriture, la toute suffisance de l'Écriture. » Et il y avait une dame qui se tenait pour le prédicateur et qui disait « Mais non, ce n'est pas possible, parce qu'il est un pasteur approuvé de notre dénomination bien-aimée, ainsi il doit avoir raison. » Mais non, il était dans l'hérésie, bien loin de la vérité. Il était un pasteur approuvé de cette dénomination, oui, mais ceci ne garantissait pas qu'il était dans la vérité. Vous voyez comment les gens raisonnent parfois, comment les gens pensent parfois. Cette personne a été approuvée. Ainsi, il est passé par l'un de nos instituts bibliques. Comment est-ce qu'il peut être dans l'erreur? Oh, c'est une manière complètement insensée de raisonner. Il y a quelques années, j'ai écrit un article pour montrer que quelque chose qui se faisait par rapport à la musique, dans la louange, dans les églises, et que ces choses étaient contre la parole de Dieu. Cet article ne dénonçait personne, mais donnait simplement les écritures, les textes qui montraient pourquoi ces choses étaient erronées. Et j'ai reçu une lettre d'un homme qui était en colère et qui disait « Oh, mon gendre est l'un de ceux qui est dans la musique contemporaine et je peux vous dire qu'il travaille dur. » Oh, c'était son raisonnement, il ne pouvait pas être dans l'erreur parce qu'il travaillait dur. Qu'est-ce que cela a à voir ? J'ai répondu rapidement et j'ai écrit « Est-ce que vous diriez la même chose si votre gendre est un prêtre catholique ? Il doit être dans le vrai parce qu'il travaille dur. » Et cette personne a répondu en écrivant « Oh, maintenant vous accusez mon gendre d'être un catholique ?» Certaines personnes ont une manière de raisonner tellement bizarre. Or, je veux vous rappeler à vous qu'il avait su une fois que le Seigneur ayant délivré le peuple du pays d'Égypte détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, parce que alors qu'ils avaient des privilèges merveilleux, ceux qui ont été délivrés d'Égypte et ils ont vu tous les miracles et ils sont passés par la mer Rouge et ils ont eu des preuves extraordinaires, des démonstrations de la puissance de Dieu et le fait que Moïse étaient leurs dirigeants approuvés de Dieu. Cependant, ils n'ont pas réellement cru et ils ont changé d'avis. Et en changeant d'avis, en refusant d'aller dans le pays promis et en doutant de Moïse, ils ont murmuré tout le long du chemin. Dieu les a condamnés. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'un jour quelqu'un a dit les bonnes choses, qu'ils ne peuvent pas être dans l'erreur. Les gens changent d'avis. Ceci prouve qu'ils n'ont jamais trouvé la vérité, ils n'ont jamais été convertis. Et alors, Dieu doit être juste. Et au verset 6, un argument par rapport aux anges et les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, ceux qui sont des anges déchus étaient insatisfaits avec leurs privilèges merveilleux. Et ils ont quitté leur demeure, leur tâche, leur ministère. Et ceux qui étaient ces êtres radieux, pleins de liberté à présent, sont retenus dans des chaînes éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. Ce privilège le plus élevé possible d'être un ange de Dieu, ces anges qui ont chuté, ces anges déchus qui ont suivi Satan, ont perdu leur lumière et leur liberté. Faites attention. Dans votre église, ceci peut se passer. Dans votre groupe d'église, ceci peut se passer. Un autre exemple au verset 7. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux. Vous avez une autre situation ici. L'une après l'autre. Les enfants d'Israël, d'abord, qui n'ont pas cru, qui ont douté de la parole de Dieu, des promesses de Dieu. Ensuite, les anges, qui sont devenus orgueilleux et insatisfaits. Puis, Sodome et Gomorre, qui ne voulaient pas être restreints, ils voulaient explorer le péché. Et ils voulaient se faire plaisir dans des péchés sensuels. Ce qu'ils pensaient être bon pour eux. Différentes catégories de personnes, et nous allons y revenir dans un moment. Au verset 8, ceux-là de même, ceux qui sont souillés, plongés dans leurs songes, souillent leur chair. Ce terme souillé est en italique, il n'est pas dans l'original. Je pense que ceci est influencé par l'exemple de Sodome et Gomorre. Ainsi, ce terme souillé est entré dans le texte. Mais ceci n'est pas dans l'original. Il est en italique pour nous montrer que ceci n'est pas dans le grec. Ceux-là de même plongés dans leurs songes, des songes, ceux qui rêvent. Quand nous pensons à quelqu'un qui rêve, nous pensons à quelqu'un d'innocent, à un prédicateur qui est un peu visionnaire. Mais ce que Jude veut dire ici, c'est des gens qui se confient dans leur imagination, dans leur propre ingéniosité, plutôt que de se confier dans la parole de Dieu. Ils ont des visions, certains d'entre eux, des songes, plutôt que d'obéir à la parole de Dieu, ils inventent de nouvelles manières, et ceci est si commun et présent dans le monde charismatique. Ceux-là, de même, plongés dans leurs songes, souillent leur chair et méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Comme les gens de Sodome et de Gomorre, ils poussent les limites au-delà de ce que Dieu permet. Il y a une église à quelques centaines de mètres d'ici, près de la rivière. Le pasteur a décidé qu'il croyait dans l'homosexualité et dans le mariage homosexuel, et il promeut ces choses. Ceci, c'est souiller la chair, pousser au-delà des limites mises en place par Dieu, des choses qui ne sont pas naturelles. Ceux-là de même plongés dans leurs songes, souillent leur chair et méprisent l'autorité et parlent mal des dignités. Ils parlent de leurs propres idées, non pas de l'autorité de la parole. Ils méprisent l'autorité et la parole de Dieu. Ils ne veulent pas la parole de Dieu. Ils veulent être libres de faire tout ce qu'ils veulent faire, de ce qui leur plaît. Et parlent mal des dignités. En grec, c'est des choses glorieuses. C'est un peu la même chose que de manquer de respect pour la parole de Dieu, qui est une autorité divine, et critiquer la parole de Dieu. Tout ceci se passe. Même dans le monde évangélique, même parmi des gens qui ont la bonne doctrine et la louange contemporaine, la musique contemporaine dans l'église, c'est une étape vers le monde, les choses sensuelles, la chair. Ces choses découlent entièrement du monde du divertissement qui est 100% sensuel. Ceci méprise l'autorité. C'est contre les règles de l'Écriture, mais ils n'écoutent pas l'Écriture. Ils veulent être libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Ils parlent mal des dignités. Et ensuite, il y a cet exemple fascinant au verset 9 concernant le fait de parler mal des dignités. Nous avons considéré ceci dans certaines de nos études bibliques. Dans l'Ancien Testament, nous avons considéré le livre des juges, par exemple, et comment rapidement, facilement, certains des grands héros comme Samson est complètement dénigré par les gens, par les prédicateurs. Il a fait une grande erreur à la fin de sa vie, mais pour la plupart de sa vie, il était un homme de foi. Et eux, ils disent tant de mauvaises choses par rapport à Samson. Ils font ce qu'ils veulent de l'Écriture. Ils parlent mal des dignités. Je n'ai pas encore parlé du verset 9, c'est pour notre prochaine étude. Parce que je veux rester sur ce point-là, au verset 10, mais ceux-ci, ces gens qui sont dans l'erreur, parlent mal, ils critiquent. Ils parlent mal de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils se corrompent en tout ce qu'ils savent naturellement, comme les animaux destitués de raison. Et plus d'exemples au verset 11. Et ceci est intéressant, ces détails de ces exemples. Malheur à eux, tous ceux qui sont dans l'erreur seront condamnés, car ils ont suivi la voie de Caïn. Qu'est-ce que c'est que la voie de Caïn? Vous savez que Caïn, sa première grande erreur, son péché d'incrédulité, c'est qu'il a rejeté l'expiation et la grâce. Quand Dieu a décidé qu'il fallait s'approcher de lui par le moyen du sacrifice, ceci symbolisait la condamnation du péché pour le pardon, Caïn a refusé cela. Il disait « Non, je vais m'approcher de Dieu par une offrande orgueilleuse et fière de mes produits terrestres, de par ce que j'ai accompli moi-même. » Il a rejeté la grâce, le pardon libre de Dieu, le sacrifice ultime de Christ. Et il a substitué ces choses par l'œuvre « Je peux mériter mon passage vers Dieu ». Et son prochain grand crime, c'était de tuer son frère. Ces deux choses sont liées. La personne qui sous-estime la grâce et la met de côté, et une personne qui tue beaucoup d'âmes parce que la grâce est le seul moyen du salut. Si vous mettez de côté la grâce, les gens ne peuvent pas être sauvés. Ainsi, vous pouvez voir pourquoi Caïn est cité ici. Ils ont suivi la voie de Caïn. Il y a un autre exemple. En effet, ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam, le faux prophète, un prophète païen. L'amour du gain. Pour le gain, ils voulaient persuader les Israélites à se marier avec des femmes païennes. Ceci a détruit leur foi et il a fait ceci pour le gain. L'exemple de Balaam, c'est que beaucoup de ces gens le font pour le gain financier. Comme cet homme aux États-Unis qui, il y a 30 ans à peu près, s'est dit « Comment est-ce que je fais grandir mon église ? Comment est-ce que j'en fais une méga church ?» Et beaucoup de gens, des milliers de personnes qui entrent, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un questionnaire et je vais demander aux gens dans la localité, dans le voisinage, si vous vouliez venir à l'église, quel genre d'église est-ce que vous voudriez ? Et il a regardé toutes ces réponses. Les réponses de gens qui n'étaient pas régénérés étaient du genre « Nous voulons une église où le salut, la sainteté, le respect de Dieu dans la repentance, dans le pardon et l'adoration, ces choses que nous n'aimons pas. Chanter les cantiques traditionnels, nous ne voulons pas ces choses. » C'est dit « D'accord, je vais vous donner une telle église. » Et le mouvement également qui a été mis en avant, où tout est fait pour plaire à une personne qui ne veut pas adorer le Seigneur et une église selon la parole. Nous allons vous donner une telle église, nous allons prendre toute la musique du monde et il y aura des groupes de musique et tout sera divertissement. Vous aurez un bon moment, un moment de plaisir et il y aura toutes sortes de théâtre et de divertissement possibles. Pourquoi, au final ? L'erreur de Balaam pour le gain. Quelle était la récompense de ce pasteur ? 5000 personnes, 10 000 personnes, 20 000 personnes dans l'église et même plus. Un empire. Tout pour lui. Il allait partout le monde pour proclamer son succès. Un homme riche. Il est devenu riche ainsi. Il y a 1 ou 2 ans, le temps passe, il a eu une grande chute. Et tout le monde a su qu'il s'est conduit mal dans son église. Quel était le problème ? Est-ce qu'il a chuté ou est-ce qu'il n'a jamais été sauvé ? Comme Jude l'écrit, dès le début, ces choses étaient dans son cœur. Il n'a jamais été sauvé. Est-ce que c'est comme Caïn ou comme Balaam ou comme Coré qui s'est opposé à Moïse et qui a persuadé beaucoup de gens à s'opposer à Moïse ? Et qu'il a parlé mal des dignités, il a critiqué Moïse terriblement. Et Dieu l'a défendu. Dieu a donné sa revanche. Il voulait être un prêtre et il a essayé de persuader d'autres lévites pour être insatisfaits, pour avoir la domination et pour demander plus que ce que Dieu a prévu et mettre de côté l'instruction de Dieu. Différentes caractéristiques dans ces différents exemples, différents motifs et objectifs pour être dans l'erreur. Et ceci est expliqué dans ce passage remarquable. Notre temps est passé, c'est un sujet assez négatif, au verset 12. Ce sont des taches dans vos repas de charité. Ils étaient à la Sainte-Cène lorsqu'ils mangent avec vous sans aucune retenue. Sans aucune crainte, ils ne sont pas convaincus de péché, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, des paroles extraordinaires. Ils ne vont jamais amener la conversion, une bénédiction qui est sincère. Des arbres au déclin de l'automne, sans fruits, 2 fois morts et déracinés. Une description terrible de ces gens. Ainsi, nous devons faire bien attention. Le temps est passé, chers amis. Et j'aimerais parler de choses glorieuses, de promesses glorieuses qui sont dans ce passage de Jude, dans une autre étude. Mais ce combat, nous devons le combattre. Le combat pour la foi, quand nous voyons des gens qui errent, qui adoptent des choses mondaines, nous devons les reprendre, parmi eux, il y a des gens qui seront des hérétiques, qui ont été plantés par Satan pour mettre la vérité de côté. Et c'est là cette grande exhortation de Jude. Oui, combat dans chaque aspect du combat spirituel personnel pour la sainteté, contre la tentation du diable, contre les doutes qui viennent du diable, et le combat glorieux pour gagner les âmes, également le combat pour défendre la vérité. Ceci est un combat essentiel.